peinture est avec nous. Déploie ton corps avec elle. La rivière est magnifique. Toutes ces étoiles dans l'eau. Je t'aime. Vas-y, prends un verre. C'est du vin nature.
Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes à l'écoute de Transistor, qui elle-même est installée, la radio associative du Fou, du Sud Finistère, bon, bref, qui est installée au Fou. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Donc nous sommes en direct depuis la quatrième édition du Salon des Vins Nature et Illustration, organisé par l'association Art et Vin, et puis en partenariat avec Transistor. Sur notre antenne, vous avez eu l'occasion d'écouter plusieurs émissions depuis 14 heures, et ça continuera demain à partir de 11 heures, où on retrouvera en direct l'ami Sancho pour un bistrot des copains spécial vin. Mais pour l'heure, nous retrouvons deux producteurs viticulteurs. L'un installé dans l'Isère, l'autre installé en Anjou. Ah
en Loire-Atlantique, c'est ça?
Non. À Anceny. Bah, Anceny, c'est pas l'Anjou? Ah, son micro? 1, 2. Ça doit être le micro 3. Oh, alors on n'a pas fait de... Mais non, attends. C'est quoi ce délire?
Anceny, c'est pas l'Anjou, parce que l'Anjou, c'est au sud de la Loire, et moi, je suis au nord de la Loire.
Oh là 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 là. D'accord, alors déjà...
Plutôt d'Anceny.
Super, alors première erreur, alors qu'en fait, c'est plus proche de chez nous. Par contre, j'ai pas fait de bêtises, hein, avec Maxime Poula, tu es bien en Isère.
Oui, c'est ça,
voilà.
Impeccable.
Et du coup, on fait une petite présentation quand même technique de nos invités, Sophie.
Et oui, donc merci Marie et Maxime d'être sur le plateau de Transistor. On va, avant de faire un portrait croisé de vous deux sur des divers sujets, je vais vous présenter l'une après l'autre. Donc je commence avec Marie. Donc je vais faire ton portrait et tu m'arrêtes dès que je dis une bêtise.
Bon, si je suis en SNI, c'est bon, ça va déjà.
Ouais, moi j'ai la bonne info. Donc Marie Carroger, vous êtes vigneronne au domaine de la Paonnerie à Anceny,
oui,
en Loire-Atlantique. Il s'agit du domaine familial de 22 hectares.
Maintenant j'ai 8.
C'est diminué à 8.
Oui.
Ah oui, ok. Qu'est-ce que deviennent les...
Eh ben, en fait, on a fait le choix, quand moi j'ai repris le domaine de mes parents, d'installer d'autres amis, en fait. Donc du coup, on a séparé le domaine en 3. Moi, j'ai pris un tiers et trois autres copains ont pris le reste.
D'accord, ok.
Voilà. Donc en fait, c'était le choix d'avoir une transmission familiale, mais pas que.
Ouais, pour ne pas avoir à... forcément à reproduire ce qu'avait fait ton père.
Oui, et aussi laisser la chance à d'autres personnes de pouvoir s'installer sur des terres qui étaient en bio et en biodynamie.
Ok, super. Donc, je poursuis mon portrait. Donc, il s'agit d'un domaine familial de 22 hectares, mais qui a été divisé en 3. Et donc, vous avez 8 hectares sur lesquels vous... du coup, vous faites des vins en biodynamie et en vinification naturelle. Oui. Ce que vous avez hérité de votre père, qui, lui, était l'un des pionniers dans cette manière de faire du vin, puisqu'il a commencé dès 1997.
C'est ça, en bio en 97, en sans soufre totalement à la cave en 2000, et après en biodynamie un peu plus tard, mais peut-être 2005, un truc comme ça. Quoi.
Ok. Est-ce qu'à l'époque, vous vous rendiez compte que votre père avait un temps d'avance, ou en tout cas était parmi les premiers en France à se lancer là-dedans?
Non, moi déjà mes grands-parents étaient végétariens depuis les années 90, j'ai été dans un milieu bio, comment on appelle ça maintenant, donc
ouais, c'est ça.
C'était normal pour moi, après je m'en suis rendu compte plutôt quand j'ai quitté la famille, quoi, et que je suis allée faire des études qui n'avaient rien à voir, et là je me suis rendu compte que oui, on avait eu une vie un peu... ce monde du bio et du vin nature et tout ça était un peu pas précurseur, mais on était un peu à côté, quoi.
Oui, c'est ça. Tout le monde ne vivait pas comme ça. Et vous vous en êtes rendu compte que lorsque vous êtes allé à Paris, pourquoi faire ?
D'abord, j'étais à Montpellier et après, je suis allée à Paris.
D'accord.
Et j'ai fait des études de photo et après, j'étais brocanteuse pendant 8 ans.
Ok. Ouais, j'avais noté ça.
Après, c'est pas facile, hein.
Donc, à Paris. Et alors, ce que j'ai lu sur à droite à gauche, c'est que à l'âge de 30 ans, même vous l'avez dit à Yann, mon collègue de Transistor, vous avez eu l'appel de la vigne, c'est ça?
Ouais, c'était un peu plus de 30 ans, je pense, mais disons qu'en 2017, bon, après j'ai toujours travaillé dans les vignes, je pense que j'ai appris, après à tailler. J'ai commencé à tailler à 14 ans, c'est dans le milieu dans lequel j'étais, hein, donc j'appartenais à ce milieu. Et en 2017, il y a eu un grand gel en France. Et en fait, j'étais à Paris. Bon, j'avais une vie qui me plaisait, hein, mais et du coup, je me suis dit, mais en fait, j'ai vraiment eu cet appel de genre, qu'est-ce que je fais là? Comment je réagis par rapport à ça et qu'est-ce que je peux faire moi?
Ok.
Et donc c'est ça qui m'a décidé d'un coup à arrêter et puis à changer de vie et je regrette pas. Enfin voilà.
Ouais, c'était genre je serais plus utile à la vigne alors que là ils sont en souffrance par rapport au gel.
Ouais, je pense que c'était plutôt la nature en général, mais que moi mon point d'accès, ce que je connaissais le mieux, en tout cas, c'était la vigne. Je connaissais pas l'élevage, tout ça. Enfin, j'étais pas. Donc, c'était ça mon point d'entrée, en fait.
Ok. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'ai noté sur mes papiers. Vous conduisez seul un vignoble de 8 hectares en bio et en biodynamie.
Oui.
Et avec une approche très ancrée dans le vivant.
Ouais.
C'est ça. Vin naturel, agroécologie et expérimentation.
Ouais, c'est beau, mais je sais pas ce que ça veut dire.
on en parlera un peu plus tard votre manière d'expérimenter en fait diverge de celle de Maxime.
Ok, attention.
Donc, est-ce que j'ai à peu près bien résumé votre vie entière?
Oh, bah pour l'instant, oui. oui, ça va.
Okay,
très bien.
On va passer à Maxime Poula. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là.
Avec plaisir.
Donc, vous êtes vigneron dans le Trièves, en Isère.
C'est ça, au bon endroit.
Et vous avez participé à la renaissance d'un vignoble presque disparu.
C'est ça. En vrai, l'Isère, c'était un gros territoire viticole il y a peut-être 100 ans, quoi. Il y avait 35 000 hectares de vignes en Isère. Et aujourd'hui, on en a 300.
D'accord.
Ouais.
Donc, en fait, est-ce qu'on pourrait dire que c'était pas de la chance de tomber sur un vignoble presque disparu parce que l'Isère est fait de vignobles presque disparus?
Bah, l'Isère, c'est un peu compliqué parce que ça a été dur à définir parce qu'il y a eu beaucoup de cépages différents, il y a eu beaucoup de ventes différentes. Du coup, on ne sait pas trop pourquoi ce vignoble il a disparu finalement en Isère, mais... En Savoie, ça s'est maintenu parce qu'il y avait, ils sont partis sur du blanc, ils ont su faire du blanc. De la chance, non, je pense que c'est vraiment, il y a eu une création, en fait, en 2008 d'une association sur notre territoire, donc le Trièves, qui est vraiment en Sud-Isère, quoi. Qui était pour promouvoir les vieilles vignes des anciens, parce qu'il faut savoir, sur le Trièves, il n'y avait pas de vente vraiment de vin. C'était vraiment du vin de consommation, de vigne familiale. Et du coup, à partir de là, en fait, l'association a motivé un peu des groupes de personnes et on a fait la vigne, on a fait les vignes des anciens, quoi. On leur a fait leur vin, quoi, en fait.
D'accord.
Ça a commencé comme ça.
Ok. Donc, juste avant de vous embarquer avec cette association.
Oui.
Et c'est vous qui êtes à l'origine de l'association, qui avez beaucoup impulsé ou vous étiez vraiment...
Non, j'ai participé au CA, j'ai participé
à
un groupe actif, mais non, c'est deux amis, principalement, quoi. Gilles Barbe, si je peux le citer, parce que vu qu'il n'y avait pas de noyau viticole, c'était un peu compliqué avec la réglementation par rapport aux douanes. On n'a pas eu le droit de planter pour ceux qui ont eu l'idée de vouloir planter et d'en faire un métier. Donc ça a mis 10 ans à avoir le droit d'avoir des droits de plantation.
Okay.
Et voilà, grâce à Gilles qui lui voilà, a envoyé des mails à 4 heures du matin ou des choses comme ça, ça a bien fait bouger les choses. Ouais.
N'a pas lâché, à persévérer. Aujourd'hui, vous cultivez 2 hectares de vignes.
Oui, un petit peu moins, mais c'est ça, ouais. Okay. À peu près. Ouais.
Donc, au sein d'une ferme en polyculture élevage.
Oui, c'est ça. En fait, j'ai repris la ferme familiale. Voilà, j'ai bougé aussi du territoire. Je savais pas trop quoi faire avec cette ferme. J'ai 2 frangines aussi. J'avais pas forcément plus d'affinité avec ça, même si j'ai toujours brassé dans le milieu. Mais je suis revenu quand j'ai remodelé un peu tout ça. Et du coup, mes parents, ils avaient des ânes, ils ont eu des chèvres, ils ont eu pas mal de choses. J'ai conservé l'élevage d'ânes, même si ils sont juste là et qui broutent dans les champs. Mais voilà, donc je suis aussi éleveur, j'ai des cochons en plein air, je fais de la charcuterie en plein air. Et puis du coup, polyculture, élevage, donc du fourrage, des céréales.
Je vais reprendre. Tu voulais peut-être, Sophie, excuse-moi, parce que du coup, on n'a plus qu'un seul micro. Tu veux, il y a encore des choses à rajouter sur le portrait ?
Eh bien non, sauf si Maxime a quelque chose à dire de plus.
Non, c'est bon, on pourrait parler longtemps. Mais...
Alors, au niveau du vin nature, on a donc 2 invités avec vraiment 2 profils assez différents, puisque, enfin, avec des similitudes aussi, puisque tous les deux, vous êtes héritiers, en fait, d'une exploitation, si je puis dire. Toi, Marie, avec, comme l'a dit Sophie tout à l'heure, avec une exploitation déjà ancienne, alors je sais pas de combien de générations.
4.
4. Ah ouais, 4 générations. Mmh. Ok.
Mais c'était de la polyculture élevage avant. Enfin, il y a jamais eu. C'est mon père qui a passé le vignoble en vin exclusivement.
Ouais.
Et petit à petit, il a re-rentré les. On a eu des. Enfin, il a eu des cochons. On a un peu de moutons. 2 ânes. Et là, petit à petit, je crois que j'ai envie de retourner vers quelque chose qui soit pas exclusivement vigne aussi, en fait.
Ouais, justement. Et donc Marie et tous les deux, donc héritiers, voilà, quand même, de par la famille. Et toi, Maxime, justement aussi, je crois que la ferme sur laquelle tu travailles, c'est une longue génération.
Oui, c'était l'arrière-grand-mère. L'arrière-grand-mère, après ma maman, parce que le fils est parti en Algérie, puis il n'est pas revenu, donc ça a hérité encore une femme. Et puis là, moi, c'est... Mais du coup, mon père qui s'est marié avec ma mère, en gros, lui, il est arrivé, il a arraché les vignes de l'arrière-grand-père. Et il m'a aidé à en replanter au même endroit.
Et aujourd'hui, on en parlera. On en parle maintenant parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs productrices de vin et il y a quand même c'est pas facile tous les jours, ne serait-ce qu'au niveau, il y a une crise quand même aussi au niveau de la vente, hein, de l'achat du vin, de la consommation. Et il y a 2 profils différents. Donc Maxime, où finalement la production viticole représente une faible part en fait, hein, dans ton activité. Marie, toi, c'est 100% de ton activité.
Oui, oui.
Ouais. Toute seule. Est-ce que l'avenir de la production viticole passe par la diversification, comme ce que tu fais, toi, Maxime? Alors même si c'est toi, c'est quand même différent parce que le vin représente simplement, je crois, 5% un peu, hein, de ton activité.
C'est sûr que j'ai beaucoup de surface. Donc en termes de surface, ça représente peu la vigne, mais en termes de temps de travail, c'est quand même là où je passe le plus de temps.
D'accord.
Même si je fais 30 hectares de céréales, que je suis pas très tracteur, mais que c'est à faire, je le fais, c'est intéressant, mais c'est beaucoup moins de temps de faire de la céréale que de la vigne. Quoi, la vigne, on y passe un peu le temps qu'on veut, mais on peut y être un peu tout le temps, on la jardine, du coup on y est un peu tout le temps. Est-ce que c'est l'avenir? Je sais pas, mais j'ai peut-être moins de pression par rapport à un résultat de production. Ça, c'est sûr, parce qu'il peut y avoir des céréales où j'ai toujours un peu du cochon ou des choses comme ça. Ça, c'est intéressant. Mais à un stade de... Je pense que je suis j'ai beaucoup, beaucoup d'ateliers. Et c'est vrai que du coup, on est quand même contraint, qu'on soit tout petit ou gros, on a les mêmes contraintes sur chaque atelier. Ouais.
Ce qui fait qu'est-ce que tu appelles des ateliers?
Quand je dis des ateliers, c'est que j'ai des céréales. Donc, je produis mes propres semences. Je vends aussi les céréales en circuit court. Du coup, par exemple, j'ai de la moutarde, je transforme de la moutarde. J'ai les cochons, quoi. Donc, voilà, je différencie un peu l'élevage ou les choses comme ça. Mais c'est vrai que tous ces ateliers multipliés font une charge mentale quand même. Voilà, faut jongler un peu. Ouais. On a moins de stress par rapport à la production. C'est sûr, si ça grêle, ça fait chier, mais c'est voilà. Ouais. Je peux rattraper par autre chose. Mais ça demande de jongler beaucoup, beaucoup, quoi.
Toi, Marie, alors déjà, je ne vous ai pas posé la question, je vous la pose maintenant. Enfin, ça va t'agacer un peu, mais parce que, ou alors tu ne vas pas me répondre carrément, mais combien de bouteilles tu fais à peu près?
Je ne réponds pas à ça parce que c'est tellement. Franchement, en 2024, j'ai dû faire 3000 bouteilles.
D'accord.
Et enfin. C'est tellement, les aléas climatiques sont tellement extrêmes que je sais même pas, en fait. C'est comme un burn-out dans ma tête. Donc, je réponds pas à cette question.
D'accord. Alors, toi, Maxime, je sais que c'est à peu près, tu me disais, 4000 bouteilles.
L'an passé, j'ai fait 4000 bouteilles, mais je rebondis, quoi. C'est à peu près pareil. En fait, les petits fruits et ça dépend des zones, mais en plus, en zone de montagne aussi, on a beaucoup d'aléas, comme partout en ce moment, mais voilà, des amplitudes thermiques hyper fortes. Donc, des choses qui font que, les plantes, elles sont un peu plus contraintes. Non, oui, ça passe de 3000 à 500.
Ah ouais, ouais. Qu'est-ce que tu penses, Marie, justement, d'une activité assez démultipliée, comme celle de Maxime, justement? Est-ce que c'est quelque chose, toi, sur lequel tu te poses des questions aujourd'hui, de rester à 100% sur la vigne?
Bah, en fait, je pense qu'à l'origine, tout était fait comme ça. Enfin, je veux dire, dans le modèle agricole, il était comme ça. Et moi, j'ai été quand même un peu éduquée dans ce modèle-là. Donc, pour moi, c'est pas un modèle étranger. C'est un modèle que je comprends. Après, par exemple, moi, toute seule, c'est compliqué, en fait. Alors, déjà, bon, j'ai beaucoup d'hectares, mais ma sœur, par exemple, elle est éleveuse de brebis. Donc elle a sa ferme donc elle pâture les brebis sur mes vignes, enfin dans mes vignes. Il y a un échange déjà qui se fait de toute façon logiquement autour. Après, l'année dernière, j'ai fait de la polenta parce que justement j'avais envie de polenta. Bon, bref. Et donc du coup, je suis en train de récupérer 3 hectares de terre sur les bords de la Loire. Pour faire mes propres engrais verts que je vais mettre après dans les vignes. Bon, c'est déjà des choses qui sont en place, en fait. Mais de là à dire que c'est de la polyculture élevage, bon, j'ai 30 moutons. Moi, à mon nom, des Ouessants, mais j'en fais, enfin, ils pâturent, quoi. Voilà. Après, de passer à un stade au-dessus, il faudrait que j'ai quelqu'un avec moi, en fait. Parce que moi, toute seule, je peux pas. Déjà que j'ai pas le temps, juste avec mes vignes. Voilà. Mais après, oui, ça me plairait. Faut changer un peu le système de base, quoi.
Alors justement, vous travaillez seul, Marie. Contrairement à Maxime, vous êtes vraiment au sein d'un collectif. Est-ce que ça apporte quelque chose en plus, ce travail collectif? Est-ce que vous avez l'impression de travailler seul, vous?
Alors sur la vigne, effectivement, pas du tout. C'est vraiment ce collectif associatif qui a dynamisé, et donc c'est hyper chouette. On peut dire qu'on travaille un peu tous ensemble. Mais sur la ferme, malgré la présence de mon père et qui est là souvent, je me sens quand même plutôt seul, quoi. Je rebondis un peu. C'est vrai que quand on commence à diversifier, il faut du monde, quoi. Il faut, à mon avis, il faut plus de personnes à l'hectare pour que ça soit aussi juste plus sympa, quoi. Tout simplement. On est souvent un peu seul, quoi.
La charge mentale aussi.
Oui.
Parce que t'oublies, si tu dois faire le cochon, la charcute, les vignes, t'oublies déjà que moi, juste en faisant les vignes, j'oublie mes petits objets, par exemple. Et ben,
Remarqueras que je voulais pas, parce qu'en fait, on a fait un peu différemment. C'est pas grave. On va boire le vin quand même.
Oui, c'est ça, c'est la charge mentale. On a beaucoup, surtout avec le changement climatique, les moments sont plus courts. Faut réagir plus vite. Et donc, du coup, si t'as, enfin, entre la moisson, les machins, les trucs, tu peux facilement perdre pied, quoi.
Du coup, travailler toute seule, c'est plus dur pour toi? Justement, avec toutes ces modifications, c'est...
Oui, je pense qu'il me manque quand même un peu, un peu de quelqu'un avec qui travailler, mais pour l'instant, de toute façon, je peux pas parce que c'est pas encore viable déjà pour moi, donc il faut trouver...
Qu'est-ce qui est pas viable aujourd'hui?
J'ai pas assez de raisins. C'est compliqué, quoi. Ouais. Ouais. Les années, je me suis installée en 21, j'ai gelé. En 22, il n'y a pas eu de raisin. Enfin, il y a eu du raisin, mais il n'y avait pas de jus. Et en 23, c'était une bonne année. Donc, ça, on peut le dire. Et puis, en 24, j'ai perdu tout à cause du mildiou. Et en 25, la vigne était trop stressée à cause de 24. Donc, elle n'a pas fait de jus.
Et comment tu as vécu ces dernières années aussi? Alors, c'est vrai, finalement. Non, toi, Maxime, tu fais du vin depuis quand même pas mal de temps.
Avec l'association, ouais, depuis 2009, notre première cuvée. Avec un ami là qui est là avec moi aujourd'hui au salon. Oui, ça ressemble un peu, hein, effectivement. On sait jamais quoi. Donc on se laisse porter. On va pas, du moins moi, je vais pas lutter contre le climat. Je me laisse porter, mais ça coïncide un peu quoi avec 2024, 2022, 2025. 2020. Oui, moi c'est plutôt 2023 et 2024. Et 2024, elle a pas compris du coup non plus. Mais effectivement, c'est cette notion de quand même de collectif sur la vigne, ouais, c'est très précieux quoi. Et c'est vrai que là, je viens un peu en vacances. Il était temps aussi, alors que je pars et que j'ai 30 hectares de foin à faire qui attendront.
Alors j'ai l'impression à vous entendre, puis à entendre aussi à côtoyer des producteuristes comme vous. Qu'est-ce qui vous, enfin, qu'il y a quelque chose qui vous différencie par rapport aux, quand même aux viticulteurs peut-être conventionnels, ou c'est quand même tout ce travail, il y a une espèce de liberté quand même. J'ai l'impression que c'est aussi pour la raison pour laquelle vous avez choisi ce métier, l'expérimentation, essayer, à un moment donné, tu disais Marie, faire du, comment tu disais, c'est pas de la céréale mais
la polenta.
Ouais, la polenta, ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui vous caractérise, qui caractérise les ceux qui travaillent dans le vin nature, justement, c'est l'idée d'expérimentation, d'essayer autre chose, de diversifier. Tenter dans le vin aussi.
Dire ouais, je sais pas si ça caractérise le milieu du vin nature, mais je dirais plutôt le milieu de paysans. Quand on a des fermes de génération en génération, c'est vrai que moi ça me stimule quand même malgré toute cette charge de moissonner de la moutarde, d'aller la trier, de la finir jusqu'en pot, hop, de partir faire aussi mes propres semences d'engrais vert pour les vignes ou pour les copains. Ouais, moi ça me caractérise plus quoi de me déplacer pas pour une seule production quoi.
OK. Et toi Marie, pour l'expérimentation?
Je pense que le vin nature amène quelque chose de plutôt libre, et donc ceux qui ont envie d'expérimenter, ils expérimentent, ceux qui ont pas envie, ils expérimentent pas. Justement, c'est ça en fait, c'est que c'est pas une norme dictée forcément par l'appellation ou quoi que ce soit. C'est justement que chacun a envie, enfin peut faire ce qu'il veut quoi. Après moi j'aime expérimenter, mais parce que pareil de ferme de génération en génération, déjà on voit les conneries qui ont été faites, pas faites, tout ça. Et puis après peut-être parce que sinon je m'ennuierais quoi aussi.
Okay.
Mais là par exemple moi j'ai des parcelles où je fais qui sont en expérimentation depuis 8 ans, sans cuivre, sans soufre, avec des traitements plantes et autres. Et je tiens, alors que même si, je vous dis que c'est compliqué, et si je voulais faire moins compliqué, je pourrais, en fait. Mais pour moi, c'est aussi politique et aussi, le changement climatique, il est là, et si je fais rien, il va rien se passer quoi. Et donc en fait pour moi ça fait partie des choses qui me motivent en fait, d'essayer de comprendre, de voir comment la vigne réagit, tout ça. Donc
j'avais pas cette notion là que ça prenait autant de temps, enfin ça se compte en mois, en années pour expérimenter quelque chose.
On a qu'une récolte par an, et donc déjà tu te craques une fois, deux
oui,
fois,
c'est ça,
trois fois,
donc après, des années vont vite.
Oui, c'est ça.
Et est-ce que la dernière chose que tu as expérimenté, sachant que et qui a marché ou pas marché, et que tu t'en souviens, qui te fait rire ou pas?
Une bonne nouvelle. Donc j'ai planté des oliviers il y a 3 ans, et là j'ai des fleurs, donc j'aurai une petite récolte d'olives cette année.
Oh, trop bien.
Voilà.
Et toi Maxime, génial. Est-ce que tu as expérimenté quelque chose qui a, dont tu es fier ou pas du tout?
On est toujours un peu. On se pose toujours des questions en fait dans le monde agricole en permanence, sur quoi, sur sur un peu tout, quoi, sur le comment on va travailler la terre, est-ce que je vais la labourer, est-ce que je vais faire des semis directs en place pour pas toucher le sol. Donc c'est en permanence des sur ma ferme, c'est en permanence des expériences.
Ouais, tout est possible.
Le fait aussi de passer par le biais de cet héritage, effectivement, tout est possible. Et du coup, ça donne vraiment envie de le partager et de donner accès à la terre à d'autres, quoi. Mais effectivement, j'ai un bon père bricoleur. Du coup, en ce moment, on est beaucoup sur les semis directs pour les céréales ou pour les légumineuses ou des choses comme ça. Et ouais, ça fait un peu parler les gens, mais il y a des choses intéressantes.
Et qu'est-ce qui a bien marché?
Qu'est-ce qui a bien marché?
Si les semis directs ça marche, c'est que ça, c'est une bonne nouvelle.
Ouais, bah ouais. Les semis.
Alors, c'est quoi un semis direct?
un semis direct, on va dire même globalement sur l'ensemble de la ferme, j'aime bien très peu consommer pour produire. Du coup, l'idée du semis direct, c'est d'éviter les labours, qui sont quand même des grosses machines qui font du mal au sol, pas forcément tout le temps, mais on va dire qu'ils, quand même, on aime moins labourer les terres, mais c'est surtout des grosses machines qui sont très énergivores. Et du coup, l'idée d'un semis direct, c'est de pouvoir positionner la graine sans trop bouleverser les horizons du sol à faible profondeur, quoi, bonne profondeur, avec un seul passage.
Ok. Merci, voilà, on sait ce que c'est un semis direct maintenant. En fait, tu poses presque la graine.
Non, bah, l'idée, c'est d'ouvrir un petit peu le sol et de réussir à tasser le sol ou le renfermer, mais vraiment sans bouger les horizons du sol. Et du coup, okay, que le semis, il pousse en même temps que les autres choses qui sont forcément en place, parce qu'il y a plein de choses qui poussent en même temps. Mais c'est comment la plante va se débrouiller avec tout ce qu'il y a déjà en place. Et ça, c'est un peu plus dur. Le semis direct, il est souvent essayé, il est souvent pratiqué en conventionnel, où ils mettent un coup de désherbant. Et du coup, ils facilitent la levée de la graine que toi, t'as voulu semer. Mais il y a des choses qui sont intéressantes, qui fonctionnent quand même bien.
Alors, on arrive au terme aussi de ce portrait croisé. Je vous ai demandé à chacun de ramener une bouteille, bien sûr. Marie, tu as goûté c'est un vin blanc, un vin orange, Maxime, c'est quoi?
Alors, j'étais en train de goûter. Alors, non, Marie, du coup.
Ouais. Alors, d'abord peut-être Marie.
C'est un vin orange, donc je.
C'est un vin orange. Voilà, je peux dire. C'est quoi un vin orange?
Bah, c'est un vin blanc, enfin c'est du raisin blanc macéré.
Okay.
Donc là, je ne sais pas combien de temps c'est macéré, mais.
Il va nous le dire tout à l'heure, mais.
C'est assez délicat, il n'y a pas trop de tanins. C'est assez floral en fait. Sachant que là, il est un peu réchauffé, comme ça, on sent bien le vin. Et, non, mais c'est vrai, c'est très bon. Et
un vin comme ça, se boit pas nécessairement très froid, très frais.
Bon, je pense qu'il serait meilleur frais, mais quand un vin nature est dégusté à température ambiante, on voit plus le vin. On peut moins cacher les défauts, je veux dire.
Oui. Souvent, si on sert un blanc très très frais,
oui, c'est
qu'on a une raison des fois.
Ah ouais. Alors Maxime, tu peux nous présenter cette cuvée?
Alors c'est de la Roussanne. Une parcelle, elle a 800, j'ai mis 828, mais elle est à plus de 800 mètres d'altitude. Du coup, ça mûrit doucement, quoi. C'est à faible degré, quoi. On a 10,5, des choses comme ça. Effectivement, c'est de la macération. C'est les Géorgiens qui faisaient ça beaucoup en amphore, la macération de vin blanc, de cépage blanc, pardon.
C'est quoi comme cépage?
C'est de la Roussanne.
Ah, Roussanne, ok.
Ouais.
Tu l'as dit.
Et du coup, il y a 15 jours de macération là-dessus.
Voilà. C'est sympa.
Ouais. Très peu d'extraction, alors on n'est pas obligé de rentrer dans tous les termes.
Et c'est grappe entière?
C'est volontaire, ouais.
Grappe entière?
Grappe entière, non. Foulée et raflée.
Grappe entière, ça veut dire quoi?
Grappe entière, ça veut dire on touche pas le raisin, en gros. Avec on les vendange et on les met dans la cuve, plus
ou
moins.
Avec la rafle, c'est ça? Avec
ouais.
Ok.
Là, c'est quand j'ai dit foulée et raflée, pour le coup, là, c'est passé dans une machine, un fouloir et rafleur qui lui enlève la rafle et casse la baie. En plus, quoi, voilà.
Donc, chers auditeurs, chères auditrices, si vous voulez goûter ce vin de 800 mètres d'altitude, je vous invite
824
mètres d'altitude.
28 même.
828, je vous invite à nous retrouver sur le salon. Alors, Maxime, je t'invite à goûter ce vin rouge. Est-ce qu'il y a un ordre? Est-ce qu'on peut boire du vin rouge et du vin blanc après ou...
Oh bah oui.
Ouais, les deux. Enfin, je veux dire, oui. Enfin, non, vin rouge, vin blanc, vin rouge, mais on peut aussi prendre du vin rouge et du vin blanc après.
Du rosé au milieu, si tu veux.
Alors, Maxime.
Trop bien. Bah, alors.
Trop bien.
On vient de me dire que c'était du gamay, donc maintenant, je peux vous dire que c'est du gamay. Je sais pas quelle année c'est, mais c'est un joli fruit. Ça reste bien frais quand même. Voilà, le gamay, je le connais peu. On en a un petit peu chez nous. Mais ça a l'air plutôt joli, oui.
Marie, alors tu nous présentes cette bouteille qui s'appelle Prologue.
Ouais, c'est 2025. C'est une partie des raisins. En fait, je fais plus de parcellaires dans mes gamets.
Alors, ça veut dire quoi faire du parcellaire?
Bah, de choisir une parcelle pour telle cuvée, une autre parcelle pour une autre cuvée. Je vais récupérer les raisins. Là où il y a beaucoup de terre, ça va aller dans la cuvée Prologue. Et là où il y a peu de terre, ça va aller dans une autre cuvée où c'est plus concentré. Et ça, du coup, c'est une partie en carbo sèche. Ça veut dire je mets du jus quand même dans le fond de la cuve qui va fermenter. Je mets des grappes entières. Je ferme le chapeau. Ça fait ce qu'on appelle une carbo. Mais au moment, cette année, au vendange, au bout de 3 jours, je trouvais que c'était trop écœurant, donc j'ai tout pressé. J'ai re-rentré une autre partie de gamay et j'ai foulé à la main l'autre partie et 3 jours de macération et j'ai assemblé. Donc en vrai, il y a 3 jours de macération. Okay. Mais c'était des raisins très, très concentrés.
Le gamay, c'est un cépage caractéristique d'Anceny, enfin,
de France?
Ouais, de France, ouais. Mais en fait, je veux dire, en fait, au niveau des cépages en rouge, c'est.
Ouais, bah l'appellation qui interdisait en Isère de planter du raisin, nous a obligés de planter du gamay. Donc c'est les choix des appellations en fait qui nous ont amené à avoir beaucoup de gamay. Et notamment nous, c'est la plupart du gamay qu'on a, c'est du gamay beaujolais qui n'est pas du tout adapté à nos schistes. Mais maintenant avec le changement climatique, ça va, c'est quand même mieux. Mais nous, on a un gamay endémique qui s'appelle le gamay mani. Qui est le gamay d'Anceny et on est en train de replanter en fait la plupart, enfin de complanter tous nos gamets avec ce même gamay là en fait.
Marie, okay. Maxime, merci pour ce temps. J'espère que, enfin ce temps que vous avez accordé à l'antenne et puis voilà, on a la chance d'avoir un temps magnifique. Je ne sais pas si c'est idéal pour la dégustation du vin.
Bah si t'as une bonne glacière.
Oui, effectivement.
C'est la bonne glacière.
C'est plus pour ceux qui dégustent, ouais. Mais. Sophie, le
mot de la fin. Merci à vous deux et on vous souhaite le meilleur et un temps qui ne varie pas trop, qui ne fait pas trop souffrir les vignes et les humains. Merci beaucoup.
Merci. Merci à vous.
Alors, grand résultat de la tombola du salon du vin nature et de l'illustration. Nous sommes avec Amélie qui va avoir le plaisir de annoncer.
Je tiens à préciser que les petits tickets que j'ai actuellement dans la main ont été tirés par une main innocente.
J'étais témoin et ce n'est pas moi la main innocente.
Exactement, c'était une toute petite main dont je ne connais pas le prénom. Laszlo. Ouais. Alors, nous avons donc 7 gagnants. Premier gagnant. Premier gagnant. Julien Duchesne, il me semble que c'est Duchesne, le numéro 9, ticket numéro 9. Ouh là là, les lots ont l'air très sympas parce qu'il y a un numéro de topo, sans doute le dernier sorti. Génial, waouh.
Donc si Julien est toujours présent au salon, il peut nous retrouver au stand de la radio Transistor et nous serons ravis de lui remettre son lot en direct.
Alors, lot numéro 2, nous avons une colline viale, ou vialée peut-être, colline. Ah bah super, voilà une bénévole, donc en plus c'est génial.
Bravo colline, tu peux aussi venir au stand si tu veux qu'on te remette ton lot en direct.
Alors, un autre lot qui est gagné par une certaine Delphine Mailleux.
Félicitations Delphine.
Mmh. Un lot suivant, ce ne sont que des bolos parce que dans les sacs, il y a vraiment beaucoup de choses. Des fois, plusieurs livres, une bouteille. Oh, génial. Je suis un peu jalouse. Le lot suivant, on a un Benjamin Macrin ou Morin ? Morin, sans doute.
Sans doute. Habitante de Dufou, il y a beaucoup plus de Morin que de quoi ? Macrin.
Ça doit être un Morin.
Prochain lot, il s'agit de
Léna. Léna sans nom de famille, Léna. Elle se reconnaîtra sans doute.
Oui, parce qu'on a un numéro de téléphone, mais on ne va pas le donner à tout le monde. Ensuite, nous avons un autre lot. Ah, Vlaine Léna qui peut-être a gagné. Et ce n'est pas la bonne Léna, désolée. Désolée Léna. Donc, nous avons un lot suivant. Donc, Amélie, il s'agit de qui ?
Thierry Lemoigne. Thierry Lemoigne. Peut-être que Thierry est médecin parce que son écriture est dure à lire.
Ou alors, Thierry, tu aurais dû être médecin parce que tu avais l'écriture qu'il fallait.
Et enfin, pour terminer, a priori, il est dans le public, c'est Julien Poupon.
Oui, bravo Julien.
Comment est-ce que tu t'appelles ?
Et oui !
Et tu es docteur ? On trouvait que tu avais une... Il n'est pas du tout docteur. Alors merci à tous. Je pense que tous les lots ont été tirés pour la tombola de ce soir. Et demain, nous repartons pour une nouvelle tombola. Donc dimanche... Au Fou, le salon du vin nature et de l'illustration aura toujours lieu et nous serons en poste sur Radio Transistor pour animer cet événement exceptionnel.